Et non, quatre murs. Des pilules, des piqûres. Ça va durer des mois. La folie comme seule loi. Il faudra que ton angoisse disparaisse si se passe. Voilà l'intraveineux. La solution à queue.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération Anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée surtout à un rapport du Haut Conseil de la Famille que révèle la presse concernant le surdosage en médicaments des enfants. Présent parmi nous, André Bitton du CRPA. Bonjour André.
Oui, alors bonjour à tout le monde. Alors deux articles de presse peuvent retenir l'attention sur ce rapport du Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Âge, HCFA, un organisme consultatif auprès du ministre. Oui, c'est auprès du Premier ministre. C'est bien ça. Oui, parce qu'auprès des services du Premier ministre, il a été créé une concentration d'interlocuteurs sur le handicap. Handicap étant considéré comme une problématique importante. Alors, ce rapport, la consommation de psychotropes chez les 6-17 ans, un nouveau rapport jugé trop alarmiste. Ça a immédiatement prêté lieu à polémique.
Oui, on sent qu'il y a vraiment un bras de fer.
Oui. C'est simple, il y a les lobbies du médicament d'une part,
oui.
Et ceux qui estiment que on doit passer par d'autres modalités comportementales, verbales et psychothérapiques d'autre part. Alors il y a aussi ceux qui pensent que les deux sont pas incompatibles, mais bon, alors d'ailleurs les commentaires dans Le Monde sont assez nourris, et j'ai bien envie de les lire. D'accord. Donc je vais vous lire, il me semble que c'est la dépêche de Spimedia qui est la plus complète. Ensuite, je passerai aux commentaires du Monde.
Oui.
Donc Spimedia a consacré une dépêche à cela le 15 mars, je vous la lis. Le Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Âge s'inquiète de l'augmentation exponentielle du recours aux psychotropes pour les enfants et adolescents ces 15 dernières années. Ces médications jugées excessives et parfois inappropriées apparaissent comme une conséquence directe du manque de professionnels. Ce matin, sur France Culture, une brève interview a été passée de Mathieu Bellassène et des gens de son réseau, notamment de sa femme Lauriane qui travaille en pédopsie. Ils jugent la même chose. Avec le manque de personnel, le manque de structure, on médique. Et une fois qu'on a médiqué, on n'a plus rien à faire. Tu es connu, hein ? Donc je reprends la dépêche. Dans un rapport intitulé « Quand les enfants vont mal, comment les aider ?», le Haut Conseil de la Famille, Enfance et Âge alerte sur la montée de la consommation des médicaments psychotropes par des enfants et adolescents. Entre 2014 et 2021, cette consommation a augmenté de 48% pour les antipsychotiques. Les antipsychotiques sont les neuroleptiques.
Oui.
63% pour les antidépresseurs. 78% pour les psychostimulants, c'est-à-dire les amphétamines, version médicament.
Oui.
C'est-à-dire que la vague de ritalinomanie des USA a affecté plein pot la France, hein, maintenant, depuis très longtemps. Et donc de plus 155% pour les hypnotiques et sédatifs. Ces niveaux d'augmentation sont sans commune mesure 2 à 20 fois plus élevés avec ceux observés au niveau de la population générale, précise le Haut Conseil. Un effet ciseau exacerbé par la crise du Covid. Ce nouveau rapport pointe le manque de moyens de la pédopsychiatrie dénoncé par les professionnels depuis des années et ses conséquences directes en matière de prise en charge des jeunes en souffrance. Pris dans un effet ciseau entre l'augmentation de la demande et le déficit structurel de l'offre de soins, les enfants sont plus exposés que les adultes à la souffrance psychique mais aussi à la médication. C'est tellement simple de distribuer les cachetons. C'est tellement simple, c'est tout. Et ce, dans la mesure où les moyens dédiés aux soins de première intention et le déploiement des dispositifs psychothérapeutiques, éducatifs et sociaux ne semblent pas à la hauteur des besoins. Le HCFEA constate une difficulté d'accès non seulement à des soins pédopsychiatriques, mais aussi à des mesures de prévention, d'éducation et d'accompagnement. Il estime que les facteurs d'inégalité sociale accentuent encore les effets de cette situation. Évidemment, il y aurait une différence criante entre les familles qui peuvent payer un accompagnement privé et les familles qui ne le peuvent pas, hein, c'est de toutes les façons. Donc avec la crise Covid, l'ensemble des rapports missions ou experts témoignent d'une augmentation de la souffrance psychique de l'enfant et des demandes de soins. Les indicateurs de souffrance psychique chez les enfants âgés de 11-17 ans restent à des niveaux élevés début 2022, comparables voire supérieurs à ceux observés début 2021. Le nombre d'admissions des moins de 15 ans à l'hôpital Robert Debré, assistance publique hôpitaux de Paris pour tentative de suicide, a augmenté de 300% entre juillet, août 19 et mars-avril 21. Plus 300% de TS. TS. Des dispositifs tous saturés. D'autant que tous les dispositifs sont saturés, les centres médico-psychologiques CMP, ils devraient dire les CMPP, hein, sont peu accessibles tant géographiquement qu'en termes de délai de suivi. La situation des centres médico-psychopédagogiques CMPP devient extrêmement difficile également. Ils sont débordés, ont été recentrés sur certains troubles, et les familles dont les enfants ont d'autres troubles ont le sentiment qu'elles doivent se débrouiller seules, analyse le Haut Conseil. Dans les centres d'action médico-sociale, le précoce, CAMS, la file active est très importante et quand le diagnostic est posé, il est très ardu de trouver l'ergothérapeute ou le psychologue disponible et dont le suivi pourra s'installer dans la durée. Déjà en 2018, l'inspection générale des affaires sociales, IGAS, constatait que ces différents centres étaient confrontés à une hausse continue de la demande de soins pour des troubles plus intenses et précoces et des demandes d'inclusion plus fortes. À cela s'ajoute une démographie en berne en pédopsychiatrie. D'après le rapport, un peu moins de 600 pédopsychiatres sont recensés dans le pays au 1er janvier 2020, avec un âge moyen de 65 ans. L'âge limite pour travailler pour des praticiens des hôpitaux en hôpital public est 70 ans. Entre 2010 et 2021, 420 pédopsychiatres sont partis à la retraite sans être remplacés, faute de place. 10% des enfants sont hospitalisés en secteur adulte et près d'un quart des patients suivis en ambulatoire en psychiatrie sont des mineurs. Donc, le Haut Conseil relève également le manque de praticiens en capacité de répondre à la prise en charge d'enfants ayant des conduites addictives. Puisque, par exemple, là où j'habite, des enfants sont initiés dès l'âge de 11 ans aux stupéfiants. Hein. C'est donc une répercussion directe sur les prescriptions. Avec des délais d'attente de 6 à 18 mois, l'offre pédiatrique, pédopsychiatrique et médico-sociale est en recul et ne permet plus d'accueillir les enfants dans des délais raisonnables. Faute de spécialistes, la majorité des consultations de l'enfant sont réalisées par le médecin généraliste. Le Haut Conseil ajoute que la situation très altérée de la médecine scolaire, de la protection maternelle et infantile et de l'ensemble des acteurs du champ médico-social ne permet plus d'assurer les missions de service public d'accueil et de suivi de l'ensemble des enfants et des familles. Le Haut Conseil fait par ailleurs le lien entre cette offre dégradée et l'augmentation continue des prescriptions de toutes les classes de médicaments psychotropes chez l'enfant et l'adolescent. Une augmentation qui se double de prescriptions très élevées en dehors des autorisations de mise sur le marché, hors recommandation des agences de santé. C'est ennuyeux. 50 à 90% des médicaments psychotropes utilisés en psychiatrie ne seraient ni étudiés, ni évalués chez l'enfant et la prescription de psychotropes hors AMM chez les enfants est de l'ordre de 40% en ville et de 67% à l'hôpital.
Oui, dans un article suivant, on s'aperçoit que l'industrie pharmaceutique ne s'intéresse pas au marché des enfants et développe surtout un marché des adultes.
Oui, mais oui, bien sûr. Enfin, mais cela, c'est un abandon. Hein. C'est carrément un abandon. Ça, oui. Ces choses-là, c'est un refus de soins. C'est criminel, tout simplement criminel. Alors, bon, je reprends. Des interrogations sur la ritaline et la psychanalyse. Le Haut Conseil à la famille consacre une longue analyse à la prise en charge du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité à la prescription de méthylphénidate, plus connu sous le nom commercial de Ritaline. En fait, le nom médicament a un autre nom, mais bon, c'est pas ce nom-là. Il s'inquiète d'une consommation qui a doublé entre 2010 et 2019, y voyant même un lien direct avec la diminution des consultations en CMPP. La Haute Autorité de Santé devrait publier cette année une recommandation sur le diagnostic et la prise en charge spécialisée. Sa recommandation destinée à la médecine de premier recours de 2015 précise pour l'instant que la prescription de médicaments psychotropes peut intervenir en deuxième intention avec un accompagnement psychothérapique et un suivi médical. Alors que famille et spécialiste du neurodéveloppement, des troubles du neurodéveloppement estiment que ce médicament doit faire partie de l'arsenal thérapeutique, les familles et les spécialistes. Le rapport du Haut Conseil est plus réservé et pointe des conflits d'intérêts entre ces derniers et l'industrie pharmaceutique. Sur les réseaux sociaux, certains s'étonnent par ailleurs d'une orientation très psychanalytique du rapport du Haut Conseil, qui n'hésite pas à écrire que le champ d'indication de la psychothérapie référée à la psychanalyse peut inclure les troubles de l'apprentissage ou de l'autisme. Donc c'est cette querelle. Alors là-dessus, les commentaires présentaient un certain intérêt. Moi je fais partie des gens qui défendent que l'abus de prescription, de toutes les façons, c'est un véritable scandale, que la question c'est pas la thérapie psychanalytique, c'est pas du tout ça. La question c'est de ne pas, comment dire, refuser les soins en abandonnant les malades ou recruter malades derrière des prescriptions. Parce que ça revient à ça.
Nous ajoutons que ce rapport du Haut Conseil de la Famille est bienvenu pour dénoncer justement ces abus.
Alors, je vais lire dans un ordre chronologique les commentaires dans Le Monde. Alors, il y a eu le 16 mars, Morty Lamuse s'est installé l'idée que prendre des médicaments, notamment des psychotropes, était l'état normal de l'être humain. Être en bonne santé, c'est vivre sous assistance médicale. Donc, vous êtes bon malade, vous prenez les médicaments, vous êtes en bonne santé. En fait, ça n'a rien de normal, cela ne va pas de soi, mais engage une conception de l'existence et de la vie sociale. La psychanalyse avait des défauts, mais la cure passait par le langage. Or, dans une société qui manque de moyens et n'a pas le temps de parler, c'est un luxe que tout le monde ne peut pas se payer. Pour compenser, on fait des séries télé sur les psys qui parlent. D'autant que personne ne peut nier l'existence d'effets secondaires liés à la prise de ces médicaments, effets secondaires dont on évalue mal la gravité et la profondeur. Quant à la conclusion qui est tirée, les gens ne sont pas en bonne santé, on ne sait pas comment les soigner, elle est pour le moins inquiétante. Si vous voulez passer une bonne journée, n'essayez pas d'extrapoler pour voir ce que cela dit de notre société. Un peu plus tard, LB, suggestion thérapeutique, beaucoup moins d'écran, plus de réseaux sociaux, c'est pas bon pour le cerveau d'être autant en contact avec des débilités, de faux, de trafiqués, d'embellis, de commercial. Un peu plus loin, Papou 69, cette consommation en forte augmentation de produits chimiques est une aberration. Beaucoup moins d'écrans délétères, plus de lectures, jeux avec les potes, réseaux sociaux in vivo et sans écran, surveillance du harcèlement à l'école, etc. Ça devrait suffire à baisser la consommation. Donc du relationnel, ça devrait aider. Un autre, j'ai vu plusieurs fois des parents mettre des enfants de moins de 3 ans devant un téléphone avec un dessin animé pour les occuper. Pas étonnant qu'ils développent ensuite des troubles de l'attention. Ayant côtoyé professionnellement des patients qui prenaient des psychotropes des années durant, je puis assurer qu'à long terme, ces produits altèrent les facultés intellectuelles. On n'en a pas assez de recul pour ceux qui regardent TPMP avec assiduité. Touche pas à mon poste. Alors, Marie 06, je suis stupéfaite par les réactions que je lis, visiblement écrites par des personnes qui ne savent pas ce qu'est le TDAH, le trouble déficit de l'attention. Il est clairement établi que ce trouble est neurodéveloppemental, que ces enfants naissent avec un cortex préfrontal plus mince que les autres enfants et qu'un dysfonctionnement des récepteurs dopaminergiques est démontré.
Alors, oui, voilà.
Là, oui, mais ça, les familles, il faut savoir, enfin, moi je le sais par ma famille, et autres. Les familles ont intérêt, quand elles sont beaufs, etc., et bornées, à la médication. Parce que la médication vient vous dire que le social, l'environnement, la famille n'est pas en cause, c'est la biologie qui est en cause.
Tout à fait, oui.
Donc on déresponsabilise. Bon, mais enfin, on déresponsabilise la société. Donc, mon fils est atteint de TDAH sous méthylphénidate, c'est-à-dire Ritaline, depuis ses 6 ans. Il a eu un téléphone en 4e, il était le dernier de sa classe à en avoir. Il a maintenant 17 ans, il n'a pas d'addiction aux écrans. Sans son traitement, pas de possibilité de suivre un cours. Le bruit d'une mouche qui vole ou d'un stylo qui tombe réduisent à néant ses efforts d'attention. Bien sûr, il a un suivi en CMP, mais toutes les années de remédiation cognitive et autres n'auraient pas été possibles sans capter son attention, donc sans traitement. Je précise qu'il y a des degrés de troubles de l'attention, mais quand il est très présent, c'est un vrai handicap. Alors, quelqu'un d'autre répond, HCFA, enfin la haute autorité, c'est un énième machin actuellement dirigé par une psychanalyste où on casse des oiseaux qui remplissent les bonnes cases. Notre société devient effrayante. Donc la guerre est déclarée. Sylviane, la consommation de psychotropes explose chez les enfants et les prescripteurs ne voient pas le problème, quelle surprise. La prochaine fois qu'un rapport pointe l'explosion de la consommation de drogue chez les jeunes, vous ne demanderez pas leur avis qu'aux leaders, qu'aux dealers, qu'aux dealers. Oui, mais il est vrai que la population passe des dealers aux prescripteurs de psychotropes légaux. C'est un fait. Donc, Géoval, les écrans sont souvent incriminés, mais quelles sont les études sourcées et dignes de confiance qui prouvent un lien entre les usages numériques de notre époque et les problèmes de santé mentale? Quel usage, quelle dérive, quel excès en face, quel problème de santé? Alors, Ostrogo, comme Marie 06, je suis effaré par certaines réponses. Je suis maman de 2 enfants atteints de troubles du neurodéveloppement. Et oui, les médicaments aident clairement à réduire anxiété, dépression et troubles attentionnels. Et non, ces enfants ne sont majoritairement pas surexposés aux écrans. Les parents de ces enfants savent bien que les écrans génèrent encore plus de stress dans ce contexte et régulent leur utilisation. Oui, nous vivons dans une société malade qui n'accepte pas ses enfants différents, n'adapte pas le système éducatif à leurs difficultés, les soumet à une pression incroyable et n'investit pas assez dans leur prise en charge médicale et psychologique. Alors merci à tous de cesser de stigmatiser ces enfants, leurs parents et les professionnels de santé qui les aident de leur mieux, avec les moyens dérisoires qui sont les leurs. Elga, il me semble que la tranche d'âge choisie 6-17 ans est beaucoup trop large et qu'en tirer des conclusions que ce soit sur l'augmentation des pathologies ou sur celle des prescriptions, c'est pas adéquat d'en tirer des conclusions. En effet, quoi de commun entre un trouble psychiatrique de mauvais pronostic chez un petit de 7 ans et une dépression modérée chez un adolescent? Alors, Gis, ce document est téléchargeable sur le site du Haut Conseil. Tous pourront voir qu'il est aberrant, mélangeant chiffres, âge, type de psychotrope et pathologie. Les troubles mentaux sont, suivant les pages et le besoin argumentaire, le mal-être, les troubles d'attention, le retard mental, les 10, mais peu de mention de l'autisme ou de la schizophrénie. Les tableaux concernent les 0-20 ans et le texte parle de l'enfance. À 20 ans, les gens sont très fréquemment encore des gosses. Hein, mais bon. On apprendra aussi dans ce rapport qu'il n'y a aucune cause biologique aux troubles mentaux, à part pour la trisomie 21 et le X fragile. On oublie beaucoup de pathologies infectieuses, toxiques, génétiques, malformatives, le tout pour justifier la psychanalyse comme thérapie universelle. Bien. Alors, là-dessus, moi, je fais mon commentaire qui a été publié, hein, parce que le monde filtre. En France, on consomme trop de psychotropes légaux, mais aussi de produits stupéfiants. C'est trop facile de placer des enfants sous traitement psychotrope et de se débarrasser des problèmes en jeu en les médicalisant. L'alerte posée est tout à fait bienvenue. Parce que ça, il y a aussi le problème de la faillite du système éducatif public. Hein. Oui. C'est ça. Donc voilà, donc c'est l'état de cette polémique.
Cette polémique est donc qu'on peut aussi constater à travers un autre article du Monde, consommation de psychotropes chez les 6-17 ans, un nouveau rapport jugé trop alarmiste.
Oui, ça, c'est, je l'ai lu.
Ah non, c'est l'autre, alors.
Non, attendez, j'ai lu le commentaire, mais je n'ai pas lu cet article du Monde. Donc, en fait, c'est de l'article du Monde, tu peux le lire.
Oui. Donc, le chapeau rappelle que le Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Âge a alerté sur l'augmentation des prescriptions aux enfants et aux adolescents d'antidépresseurs et d'antipsychotiques, notamment plusieurs pédopsychiatres s'offusquent d'une diabolisation des médicaments. Un article, voilà, article réservé, des dizaines de milliers d'enfants sous psychotropes. Voilà l'un des points soulevés par un rapport du Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Âge, HCFEA, un organisme consultatif auprès du Premier ministre, intitulé « Quand les enfants vont mal, comment les aider ?» Le rapport paru lundi 13 mars, alertait sur la hausse de la consommation de psychotropes, médicaments utilisés pour soigner les troubles psychiques, chez les enfants et les adolescents. Un document qui a soulevé de nombreuses critiques de pédopsychiatres. Selon le HCFEA, le besoin de soins augmente, mais l'offre thérapeutique diminue, ce qui favoriserait par défaut le soin par le médicament aux dépens des psychothérapies. Entre 2014 et 2021, la consommation de psychotropes chez les 6-17 ans aurait augmenté de 48,5% pour les antipsychotiques, 62,6% pour les antidépresseurs, 78% pour les psychostimulants, 155,5% pour les hypnotiques et sédatifs, selon le rapport qui se base sur les données concernant la prescription. Olivier Bonneau, pédopsychiatre au CHU de Nantes et secrétaire général du Collège national des universitaires de psychiatrie, dénonce un rapport alarmiste, ainsi qu'une diabolisation des médicaments et une stigmatisation pour les jeunes qui en prennent. Sylviane Giampino, psychologue et présidente du Conseil de l'enfance et de l'adolescence du HCFEA, assure, elle, que le rapport n'était pas à charge, mais s'interroger sur le déséquilibre entre les différents types d'aide. La consommation augmenterait donc deux fois plus vite chez l'enfant que chez l'adulte, souligne Madame Giampino, qui s'inquiète d'une prise de psychotropes qui pourrait toucher 5% de la population pédiatrique. Une donnée hypothétique à mettre en perspective, la prévalence des troubles mentaux chez les enfants étant autour de 20%, nuance Diane Purper-Wakil, pédopsychiatre au CHU de Montpellier. En réalité, plusieurs facteurs concourent à cette hausse. La souffrance psychologique et psychiatrique des jeunes augmente donc par un effet mécanique, les prescriptions aussi, explique Olivier Bonneau. En même temps, ce n'est que depuis une quinzaine d'années que les psychotropes sont prescrits aux enfants. Forcément, lorsqu'on part de très peu et quand on se met à en prescrire un peu plus, les chiffres explosent. Des psychotropes prescrits aux enfants, c'est pas seulement depuis 15 ans, ça fait depuis bien plus longtemps que ça. Je ferme la parenthèse.
Depuis le début.
Oui. Donc, les études montrent l'efficacité de certains médicaments sur les symptômes se sont multipliées, lance Diane Purper-Wakil. C'est le cas notamment du méthylphénidate, médicament utilisé dans le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH. Expose-t-elle. Pour d'autres médicaments, les données scientifiques disponibles sont au contraire insuffisantes pour justifier une large prescription, ajoute-t-elle. Un autre point soulevé par le rapport, 40% des prescriptions de psychotropes en pratique de ville et jusqu'à 94% à l'hôpital se feraient hors autorisation de mise sur le marché, AMM, ces médicaments étant développés au départ pour l'adulte. Pour Diane Purper-Wakil, une prescription hors AMM ne signifie pas pour autant une mauvaise prescription. Se baser sur des études scientifiques est aussi possible, explique-t-elle. Pour Julie Rowling, pédopsychiatre au CHU de Strasbourg, les médicaments font partie intégrante de l'arsenal thérapeutique mais ne doivent pas se substituer à une prise en charge globale du patient. La difficulté réside dans cet accompagnement. Les spécialistes tirent la sonnette d'alarme sur un manque criant de moyens. En France, 597 pédopsychiatres sont recensés. Entre 2010 et 2021, ce sont 420 professionnels qui sont partis à la retraite sans être remplacés, des effectifs bien en deçà des besoins. Il existe une forte incidence des facteurs sociaux dans l'apparition de troubles mentaux et dans la prescription médicamenteuse, pointe encore le rapport qui estime que les enfants de milieux défavorisés présenteraient des risques accrus de surmédication. Julie Rowling note surtout que la pauvreté diminue les chances d'accès aux soins. Ce qu'il faut retenir de ce rapport, mentionnent finalement les spécialistes, c'est la détérioration de la santé mentale des jeunes et le manque de moyens pour y répondre.
Alors j'ai de mon côté alors une dépêche d'Esprit Média, cette fois du 17 mars, alors qui reprend les critiques contre ce rapport. D'accord. Et là, ça devient croustillant, et donc je vais vous la lire parce que franchement, ça manque pas de sel. Alors, le titre « Santé mentale, des voix s'élèvent contre la surexposition supposée des jeunes aux psychotropes ». Alors, le résumé de tête, s'il a eu le mérite de rappeler le manque criant de moyens de pédopsychiatrie, le rapport du Haut Conseil de la famille de l'enfance et de l'âge fait réagir de nombreux acteurs du secteur par son manque de rigueur scientifique. C'est là où on voit qu'ils opposent les tenants, les fondamentalistes, les tenants du médicament, les tenants de la simplification par le biologie, par la biologie, opposent le scientifique qui évidemment, quelques troubles que ce soit, à son répondant par un médicament, bien, et ça c'est scientifique, à ceux qui sont tenants d'une approche psychosociale, parce qu'alors là, ça devient beaucoup plus compliqué. Parce que certes, il y a du biologique, certes, de toutes les façons, il y a du biologique, mais il y a du social, il y a du politique, il y a de l'environnement, etc. Donc le rapport sur la santé mentale des jeunes du Haut Conseil de la famille, etc., à l'avenir je vais dire au Conseil, et son exploitation médiatique principalement tournée sur une supposée médication à outrance des enfants et adolescents, fait réagir professionnels et associations. Il dénonce des amalgames dangereux risquant de desservir des prises en charge avec des traitements médicamenteux qui ont prouvé leur pertinence. La Ritaline a prouvé sa pertinence. Hein, moi je trouve, puisque j'ai connu des gens qui étaient sous Ritaline dès l'enfance et qui sont des gens dans l'ensemble absolument incontrôlables, qui sont passés rapidement aux stupéfiants. Et les conduites addictives liées les ont envoyés valser dans la marginalité. Carrément dans la marginalité. Donc, puisque ça a trouvé sa pertinence, c'est parfait. On peut dire aux produits, aux pays producteurs de stupéfiants de continuer à nous envahir et de foutre en l'air les populations. Donc, alors, il dénonce des amalgames. Enfin, je ferme la parenthèse. Il dénonce des amalgames dangereux risquant de desservir des prises en charge avec des traitements médicamenteux qui ont prouvé leur pertinence. En creux se dessine l'opposition des rédacteurs pro-psychanalyse aux neurosciences. Il n'y a pas que. Pour moi, j'ouvre une parenthèse. Ce n'est pas que les opposants pro-psychanalyse aux neurosciences, c'est les opposants au fait qu'on médicalise à outrance. Ce n'est pas la même chose, mais bon.
Ce sont les intérêts qui divergent.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est tous renvoyés, pour ceux qui ne sont pas d'accord avec la médicalisation à outrance, on est renvoyés, comme d'habitude, depuis des décennies, au camp de la psychanalyse. Mais non, il n'y a pas que ce camp. Enfin, mais bon, de toute façon, c'est les polarités académiques. Hein, des ennemis qui se renforcent et se reconnaissent. Une analyse scientifiquement contestable. Franck Ramu, professeur au laboratoire des sciences cognitives et psycholinguistiques à l'École normale supérieure, n'hésite pas à parler sur Twitter d'un rapport moisi, imbibé de psychanalyse, qui promeut une vision complètement biaisée et anachronique de la santé mentale de l'enfant, en contradiction complète avec les recommandations de la HAS. Interrogé par Ospi Media, il estime qu'il s'agit d'un argumentaire à charge avec une sélection des interlocuteurs et articles scientifiques qui vont dans le sens de la thèse défendue, un plaidoyer anti-psychiatrie scientifique et anti-DSM. Sur la prescription croissante d'antipsychotiques, il propose une autre analyse que le rapport. Je pense qu'elle est liée au manque de formation des professionnels aux techniques comportementales qui ont montré leur efficacité sur les troubles du comportement. Catherine Barthélémy, directrice du groupement d'intérêt scientifique autisme et troubles du neurodéveloppement TND, s'étonne également du manque de référence aux classifications internationales en général et celles des TND, troubles neurodéveloppementaux en particulier. Je trouve également très étonnant que ce rapport ne fasse pas référence aux recommandations de nos agences nationales et que les données disponibles dans le cadre des travaux de recherche des sociétés savantes et des associations internationales de malades n'aient pas été collectées. Quand même, ils font référence à des associations internationales de malades. Ajoute-t-elle, un avis partagé par nombre d'acteurs de terrain, dont Geneviève Laurent, présidente de l'Association nationale des équipes, contribuant à l'action médico-sociale précoce, qui se dit interloquée par le peu de référence aux travaux de recherche sur la science du cerveau. Plus nuancée, la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et disciplines associées salue dans un communiqué toutes les démarches permettant d'informer les décideurs des difficultés que les professionnels de la psychiatrie infanto-juvénile rencontrent, mais considère que le chapitre concernant les psychotropes pose problème, car il est à même de provoquer une compréhension erronée de la situation, voire de conduire à des ruptures de soins fort regrettables. Il faut savoir ce que c'est ces ruptures de soins, il faudra en parler après. Un parti pris anti-médicaments. Pour la, etc., hein, une société savante, contrairement à ce que suggère ce rapport, pour les troubles anxieux ou les troubles dépressifs, les traitements médicamenteux sont très rarement une solution de première intention. Ben ça, c'est eux qui le disent.
Oui, oui.
Vraiment, c'est eux qui le disent. Quand on compare les taux de prescription des psychotropes mentionnés aux prévalences des troubles qu'ils traitent, il n'y a pas de distorsion majeure, à quelques exceptions près, comme les prescriptions d'hypnotiques. La prescription est l'une des réponses thérapeutiques, elle est loin d'être la seule. Ben, l'expérience des gens dans l'ensemble va en sens inverse, mais bon. Ils expliquent que les autorisations de mise sur le marché sont peu nombreuses en population pédiatrique, pardon, car l'industrie pharmaceutique n'a pas d'intérêt à déposer un coûteux dossier pour un marché qu'elle considère trop faible. Ben, ça pose problème, parce qu'on peut se demander si c'est pas l'inverse. Mais bon. Parce que initier une population enfantine et à la médication, aux médications psychotropes, c'est les rendre dépendants pour le restant de leur vie.
Oui.
Bon, mais enfin bon. Donc je reprends le texte. En conséquence, comme en pédiatrie, les praticiens s'appuient sur la littérature scientifique quand les prescriptions s'avèrent nécessaires, ajoute-t-il. La littérature scientifique est financée par les laboratoires. La littérature scientifique est cofinancée par les laboratoires. Parce que bon, c'est celle des sociétés savantes, des instituts de recherche, etc. Donc la SFP, etc., s'inquiète de la présentation partielle de ce rapport de nature à inquiéter les familles qui ont su vaincre leur réticence pour accepter un traitement médicamenteux. Du côté des associations autour des troubles neurodéveloppementaux, c'est la colère qui domine. Ce rapport est une honte. De quel droit le Haut Conseil rend-il une analyse sur les prises en charge des TND sans avoir auditionné les spécialistes ? S'indigne Daniel Langlois, président d'Autisme France, interrogé par Ospimédia. Et là, comme par hasard, ils mettent en avant le lobby des parents d'autistes. Au moment où la HAS prépare la lettre de cadrage de la mise à jour des recommandations de 2012 sur l'autisme, elle y voit une volonté délibérée des courants psychanalytiques de peser dans le débat. Une médication encore insuffisante pour le TDAH, le trouble du développement, le trouble du déficit de l'attention. Personnellement attaqué dans le rapport, l'association Hyper Super TDAH France demande que sa révision critique par des experts reconnus sur le plan national et international dans le domaine des TND, ainsi que par les patients et leurs représentants, demande, sa révision critique, la révision critique du rapport. Nous déplorons, nous aussi, le manque de professionnels, notamment de spécialistes, sachant correctement prendre en charge les TDAH. Il faut compter 1 à 2 ans d'attente pour un rendez-vous à l'hôpital, explique à Ospimédia Christine Gétin, sa présidente. Mais nous ne pouvons pas laisser passer les assertions selon lesquelles le TDAH serait surévalué en France. Pourquoi serions-nous différents du reste du monde ? La communauté scientifique internationale estime la prévalence à 5% pour les enfants et 2,8% pour les adultes. Il est logique que la consommation de la Ritaline version médicament ait doublé entre 2010 et 2019, puisqu'en 2010, peu de médecins étaient bien formés à la prise en charge des TDAH en France. Il ne faut pas confondre accélération indispensable et vitesse excessive. Et nous sommes encore loin d'avoir rattrapé la plupart de nos voisins européens et les standards de prise en charge, ajoute la présidente de Hyper Super TDAH France. Alors, la dose définie journalière de Ritaline version médicament était en France inférieure à 1 pour 1000 habitants en 2018. Bien, d'accord. Elle précise par ailleurs que son association n'a reçu aucune subvention de laboratoire pharmaceutique depuis plus de 5 ans et d'interroger de son côté sur la présence de conflits d'intérêts avec un courant de pensée sous-jacent à la grille d'analyse du rapport. Et, enfin, la dépêche étant signée par Emmanuel Delepla, journaliste à Ospimédia. Alors, ce qu'on voit là, c'est que s'ils mettent en avant le lobby des assemblées d'autistes et les partisans familles du traitement par Ritaline des troubles du déficit de l'attention, c'est pas pour des prunes. Hein. C'est vraiment très partial. Donc, il y a une guerre de tranchées là-dessus, dans laquelle nous autres, nous sommes évidemment minoritaires, mais ça ne nous change pas.
Non. Oui, il y a disons les promoteurs de l'industrie pharmaceutique. Il y a aussi les promoteurs des neurosciences.
Oui, mais c'est-à-dire, enfin, là-dessus, c'est assez compliqué. Oui. Par exemple, j'ai un peu évalué cette situation à partir des progrès qui ont pu être réalisés dans l'organisation des personnes psychiatrisées, adultes, sur Marseille. Ce que j'ai dû constater, c'est qu'en fait, les programmes novateurs qui amenaient des choses, notamment le COFOR, le centre de rétablissement, la paire aidance, etc., sont des courants. Alors là, c'est compliqué. Hein. C'est pour ça qu'on fait ces conf-débats, hein, parce que c'est difficile à évaluer. Mise en avant et publicité en fait par le ministère de la Santé, des financements sont accordés parce qu'en quelque sorte cela apparaît comme étant la façade progressiste, la façade avant-gardiste de cette politique du médicament.
Oui.
Donc en quelque sorte c'est mis en avant et c'est mis en avant, puis d'ailleurs c'est pas pour rien qu'ils embauchent hein, là-dedans. Alors cela étant, c'est utilisé par des personnes, des professionnels, des usagers en contestation. Précisément pour pouvoir prendre position dans le terrain. Alors là encore, c'est toujours la même chose. C'est un peu comme quand les GEM avaient été lancés, les groupes d'entraide mutuelle. C'est un peu également quand la FNAPSI avait été promue et officialisée il y a 25 ans par le ministère de la Santé. Pour les gens qui ne sont pas d'accord avec le système, la problématique reste toujours la même. On se sert de ce qui est en place et on fait valoir nos thèses. Oui. Et donc, c'est-à-dire être présent ou absent.
Oui.
C'est toujours
sur
la même
le terrain.
Chose.
Oui. Hein?
Donc, toujours est-il que j'ai constaté, mais alors en avant, que plein pot, que les nouvelles possibilités ouvertes par les autorités, par les ARS et par les services hospitaliers de recherche, hein, la psychiatrie de recherche. Du côté des usagers, mettre en avant le rétablissement, etc., avec des concepts anglo-saxons, hein, c'est empowerment, c'est management...
Ça, d'accord, oui, oui, oui.
Oui, voilà. Était adossé sur des programmes fondamentaux.
Oui, d'accord, ah oui.
Ah bah oui.
Oui. Voilà. Non, oui, on y voit plutôt... c'est-à-dire que si on peut définir la dichotomie qui existe, les parties en lutte, c'est... en conflit, c'est le... D'un côté, la psychiatrie biologique, et de l'autre côté, quelque chose que ces détracteurs appellent les courants psychanalystes, mais qui sont beaucoup plus vastes que ça, et qui
mais
sont
ils ont intérêt plus sociales. À dire que leur adversaire, c'est les courants psychanalytiques,
oui.
Pour en quelque sorte faire comme d'habitude, par amalgame, discréditer ce qui n'est pas de leur camp.
C'est ça.
Comme il y a encore quelques années, bon, on a quand même changé un peu de bord. Tout ce qui n'était pas d'accord avec les institutions psychiatriques était scientologue. Bon. Donc, en fait, c'est l'opposition entre une psychiatrie centrée sur le biologique et une psychiatrie centrée sur le relationnel.
Eh bien, nous allons faire une première pause avec une musique, avec une chanson.
Tu ne peux pas trouver Danser encore de HK?
Non, pas tout de suite, peut-être la prochaine fois. La tordue.
Compis ces machines de guerre. Des tonnes et des tonnes de fer, entreposées prêtes à rugir, la terre, qu'on génère contre con. Quelle connerie, la guerre, son oiserie nucléaire, sous-marin de poche, bonbon napalm. Panoplie de sapeurs, on n'arrête pas l'imaginaire pour se faire si. De quoi éteindre le ciel? Thank you. moi le plus fort nananère. Quel pâté on vous a mis. Des tonnes et des tonnes de fer dans la chair ennemie. Mais tapez la chair, confrère, vous n'étiez pas mal non plus. Cette fois c'est la der des der. Avant la prochaine bien entendu. Les huiles ainsi s'en vont signant, détraitées aux petits oignons. Après avoir saigné à blanc, se partage terre et pognon. Trace des frontières bidon. Secret de nos piteux états, l'argent est roi et marche au pas. Tambourin, Sophie, Fred, Tirolire. Une, deux, et trois. À quatre, on tire dans le tas.
Je peux, c'est ouvert.
Oui, l'entonnoir.
Alors, par un article du Monde, d'ailleurs, je ne sais plus quand, il y a une semaine à peu près, annonçait la mort de Roland Castro, architecte et figure de mai 68, décédé à 82 ans. Cet ancien maoïste, anarcho-maoïste plutôt qu'autre chose, avait notamment réalisé la Bourse du Travail à Saint-Denis ou la Cité internationale de la bande dessinée à Angoulême. Il est décédé jeudi 9 mars à 82 ans. Alors, je lis un peu, c'est hagiographique, c'est pas tout à fait exact, le portrait est beaucoup plus nuancé, mais bon, ça a été une figure importante des courants anarcho-maoïstes. Anarcho-maoïste, hein, qui était nettement plus anarchiste et éclaté que maoïste. Roland Castro a fait partie de ce staff de l'école normale supérieure autour de lui, Althusser, qui était en rivalité pour le lancement, l'organisation et la direction des différents groupuscules maoïstes. Il y avait une rivalité avec une course à l'échalote parfaitement morbide en fond. Alors donc je lis le texte. Roland Castro, architecte et ancien militant politique, est mort jeudi 9 mars, à Paris. Il était âgé de 82 ans. Son itinéraire a épousé les tourments de la fin du XXe siècle, figure de mai 68 et du maoïsme français. Il se recentrera peu à peu, gardant toujours le cœur à gauche, même dans son soutien à Emmanuel Macron.
Renault qui finit par dire « Vive la police oui. !»
Benny Lévy, mort rabbin à Jérusalem en 2003, dirigeant de la gauche prolétarienne. Comment dire, André Glucksmann, très atlantiste. Son travail d'architecte urbaniste est connu pour des réalisations comme la Bourse du Travail à Saint-Denis en 83, l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, la Cité internationale de la bande dessinée à Angoulême, le complexe de la rue de Bagnolet, la restructuration du quai de Rouen à Lorient. Les parents de Roland Castro, un juif de Thessalonique et une juive espagnole, fuient Paris pendant l'Exode. Castro, père, se fait embaucher dans une entreprise de porcelaine à côté de Limoges en tant qu'ouvrier. Roland Castro naît là-bas peu de temps après, en octobre 40. Les juifs espagnols n'étaient pas déportés jusqu'en 43 en raison d'un accord entre Franco et Hitler. Mais en 43, ça change. Les rafles concernent tout le monde et tout le village où on était, Saint-Léonard de Nobla, Haute-Vienne, nous protège. J'ai une dette envers mon pays, une dette envers le mec qui communiste du Limousin. Ils ont été magnifiques avec ma famille, avec ma sœur et moi. 43, c'est après la fin de la zone sud, en représailles du débarquement d'Afrique du Nord. Hein, parce que la fin de la zone sud et de la ligne de démarcation, c'est l'armée allemande en représailles du débarquement allié en Afrique du Nord qui ouvre le front en Occident, et qui est le début de la défaite de l'Allemagne nazie et de l'Axe. Donc, après la guerre, les Castro retournent à Paris. À l'adolescence, le jeune Roland affine sa conscience politique. En 54, c'était le début des manifestations contre la guerre d'Algérie. J'y participe tout de suite, mais je me fais arrêter. Ça tombe en plein dans la période probatoire de la demande de naturalisation de ses parents. Malgré leurs craintes, ils deviendront finalement français. Une histoire classique d'immigrés et de preuves d'amour. Je suis très influencé par le roman national, même si mes ancêtres ne sont pas du tout gaulois. L'esprit gaulois, tout le monde l'a. Quand il rentre en France, on devient râleur et chiant. Bien. Cet esprit gaulois, donc, Roland Castro l'a mis en avant un peu plus tard, alors qu'il était étudiant. Après un rapide passage au Parti Socialiste Unifié, il adhère en 1962 à l'Union des étudiants communistes, alors qu'il est aux Beaux-Arts. Activiste et agitateur, à l'époque, l'USC est un creuset qui rassemble toute la gauche révolutionnaire. Le jeune Castro est dans la tendance italienne, qui se réclame du parti frère transalpin, plus ouvert, notamment sur la culture, et moins dogmatique que le PCF. Là se nouent des amitiés solides, par exemple avec Jean-Pierre Le Dantec, architecte. Non, Le Dantec était un centralien, c'était les ponts ou centrales, hein. c'est pas la même grande école. L'ancien ministre Bernard Kouchner, Roland Castro fréquente alors Alain Criville, Henri Weber, Pierre Goldman, Robert Linhart, Thiénot Grünbach, et s'oppose à la reprise en main de l'UEC par le PCF. Féru de littérature, le jeune homme aurait opté pour l'architecture sur les conseils d'un ami qui lui avait assuré que ses études offraient des possibilités de travailler et de gagner de l'argent dès la première année, et d'argent, il en avait besoin pour vivre et aider sa famille. L'enseignement lui est vite apparu déphasé, toutefois, par rapport aux enjeux de l'époque. En 1957, le 10e congrès international d'architecture moderne avait vu un groupe de jeunes architectes réunis sous le nom de Team 10 remettre violemment en cause l'idéal moderniste dicté par Le Corbusier et le nouvel académisme qu'il avait engendré. 2 ans avant la déflagration de mai 68, le jeune Castro organise des actions au sein de l'école. Le concept du retour à la ville, qu'il forge à cette époque avec d'autres comme Léon Crieur ou Christian de Porzan-Parc, préfigure la manière qu'il aura d'intégrer architecture et urbanisme, de subordonner du moins théoriquement l'approche spatiale à la question sociale. Bientôt, Roland Castro se laisse séduire par les thèses pro-chinoises de ses camarades de l'école normale supérieure et de son ami Le Dantec. Il rejoint donc l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes, un petit parti, ils auraient mieux fait de dire un groupuscule, qui prône l'établissement dans la classe ouvrière, comprend des brillants sujets, et étudiants normaliens doivent tout abandonner pour se faire embaucher à l'usine. Cependant, Roland Castro restera toujours un peu à part à l'UJCML, moins fermé et idéologue que les autres. Activiste et agitateur, il lance pour le 1er mai 68 un tout nouveau journal, La Cause du Peuple. Et quand Robert Linhart, le grand chef du groupuscule, interdit à ses troupes de participer à la première partie des événements, aux premières manifestations, Castro y va quand même pour voir. Une fois que les ouvriers entrent dans la danse, à partir du 13 mai, les Mao lancent leurs forces dans la bataille. En juin, ils sont aux avant-postes dans la bataille de Flins, aux abords de l'usine Renault. Les combats sont durs. Un militant de l'UJCML, issu des comités d'action lycéens d'ailleurs, Gilles Totin, 18 ans, se noie dans la Seine en voulant échapper à une charge des forces de l'ordre. Les Mao Spontex, cette mort sonne le glas du groupuscule, le gauchisme se recompose, les plus durs vont fonder la gauche prolétarienne. Un autre groupe autour de Roland Castro et de Thiénot Grünbach, qui deviendra bâtonnier du barreau de Versailles d'ailleurs, donne naissance à Vive le communisme qui devient vite Vive la révolution. Ce sont eux, les Mao Spontex, qui misent sur la spontanéité révolutionnaire des masses pour faire la révolution. Castro et ses camarades ne dédaignent pas les références poétiques. Le numéro 6 du journal de VLR a comme titre « Ce que veulent les gauchis changer la vie ». C'est une citation de Rimbaud. Un sens de la formule qu'on retrouvera dans les titres de nombreux livres que l'architecte écrira plus tard. Citation de ses titres. « Très vite, VLR abandonne le maoïsme pour s'intéresser aux révolutions du quotidien. La libération sexuelle, intellectuelle et politique. Son journal devient tout. » À plat de couleurs, maquette audacieuse, le journal tient plus de la presse underground sous LSD que du marxisme-léninisme. VLR ne verse pas dans la lutte armée, même si ses militants occupent brièvement en 70 le siège du CNPF, l'ancêtre du MEDEF, ce qui vaudra à Castro une condamnation à un mois de prison avec sursis. La volonté de changer la banlieue. VLR est alors un creuset de contre-culture, jouant un rôle essentiel dans la structuration du mouvement féministe. C'est là également que le combat pour les droits des homosexuels apparaît. On peut lire dans tout les écrits de Guy Hockenheim, fondateur du Front homosexuel d'action révolutionnaire phare. C'est le phare qui coordonne le numéro 12 de tout, en avril 71 à la une, des nus de corps masculins, des petites culottes, etc. Il est interdit à la vente en raison de son caractère pornographique. Le directeur de la publication Jean-Paul Sartre est poursuivi pour outrage aux bonnes mœurs, raconte ainsi Hervé Hamon et Patrick Rothman dans Génération, les années poudres. Si tout continue un temps de paraître, VLR s'autodissout juste après cet épisode. Les troupes sont épuisées. Roland Castro entrera quelques semaines plus tard en analyse avec Jacques Lacan. Elle durera 7 ans. J'ai une autre version de cela. C'est VLR s'est dissous après la manif de février 71, où en bas de la butte Montmartre, un homme, Richard Dehay, qui était un activiste issu des comités d'action lycéens, qui était numéro 2 dans Vive la Révolution, reçoit un tir tendu de grenade lacrymogène et en sort à moitié aveuglé. Et c'est cela, cette escalade de la violence, qui a décidé Roland Castro à autodissoudre ce groupe. Et c'est dans la vague de cette autodissolution, en 71, qui laissera sur le carreau d'ailleurs pas mal de gens, que des groupes gauchistes dans la mouvance maoïste décident successivement de s'autodissoudre. Et là, on voit une déconfiture de ces lettrés normaliens machin, qui ont eu leur printemps, qui savent qu'on les attend pour les intégrer ou les réintégrer, et qu'ils vont lâcher les luttes. Alors ça, c'est pas la même version. Et en plus, si Roland Castro rentre en psychanalyse auprès de Jacques Lacan pendant 7 ans, Richard Dehay, lui, est à moitié aveuglé et va être récupéré petit à petit. Bon, voilà, il y a une période stup, etc. Et pourra faire une reconversion professionnelle comme kinésithérapeute malvoyant, financé par la fondation Valentin Ahuy. Mais d'autres resteront sur le carreau. Et ça, c'est pas la même version. Mais ça, donc, c'est Le Monde. Voilà. Donc c'est aussi le moment où Castro se recentre sur sa carrière d'architecte urbaniste, enseignant à l'école d'architecture de la Villette, qui venait d'être créée, UP6. Il se spécialise dans le logement social et la refonte urbaine, guidé par le désir de tordre le cou au brutalisme, à la violence qu'il associait aux grands ensembles. L'écriture architecturale l'intéressait moins que les plans d'urbanisme, la création d'espaces publics. Il se réclamait plus volontiers de l'héritage d'Haussmann que des grands maîtres de l'architecture, dont il ne se souciait guère de visiter les bâtiments. Les cités-jardins, tant décriés par Le Corbusier, faisaient aussi partie de ses inspirations. Bon, donc ça, c'est sa carrière d'architecte, sa collaboration avec Mitterrand, etc., etc. Comment on passe de la révolution et des idéaux révolutionnaires débridés de jeunes à l'établissement? Autrement dit, le titre de l'ouvrage de Guy Hockenheim de 86, « Lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary Club ».
Eh bien, merci pour cette nouvelle, enfin cet article, et pour le reste. André, nous vous disons...
Il n'y a pas un brin de musique ?
Alors oui, alors la musique, c'est toujours la tordue, où va-t-on ? Voilà.
Se moque du tir comme du car. Le monde se fout du monde car. Si l'on s'arrête 5 minutes, on voit sous la cocotte minute. Le feu affondra la pression. La fin tenant à un bouton, sur le fil de la dissuasion, encore une belle idée béton, on fait pousser des champignons dans les caves de l'oncle Dom Tom. Gentil, gentil, les autochtones, vous reprendrez bien un bout d'atome. Où va-t-on? Papa, je ne sais pas, mais on y va. De qui descendons-nous, maman, pour être aussi condescendants? Où va-t-on, papa? Je ne sais pas, mais on y va. Et comme dit mon tonton, plus on est d'un con, plus ça se voit. Qu'un petit crime se commette là-bas à l'ombre d'une comète, parce qu'une bande de Vénusiens dans un ballon sont venus aux mains. Et aussi sec, notre petite planète est au jus au courant du fait. Par la lorgnette, des caméras prêtes à mater tous les coups bas. Tandis qu'en bas de chez toi, de chez vous, de chez nous, de chez moi, quelqu'un tout seul de faim, de froid, est mort en se bouffant les doigts. Je ne sais pas. mais on y va. De qui descendons-nous vraiment pour être si condescendants? Où va-t-on, papa? Je ne sais pas, mais on y va. Et comme dit mon tonton, plus on est de cons, plus ça se voit. Des têtes à claque pour ton calotte, clame à bas la capote. Puis ce froid béotien du sexe qui mettent l'UVG à l'index, eux qui de la vie ne connaissent que les balivernes des livres de messe. Un doigt de lacryma Christi, un autre dans l'Opus Dei. Et si l'amour peut rendre aveugle, il rend sourd ces fous qui beuglent, ces onanistes consacrés. De haut s'il faut se protéger.
Où va-t-on, papa? Je ne sais pas, mais on y va. De qui descendons-nous, maman? Pour être si condescendant, où va-t-on, papa?
Hey, comme mon tonton, plus on est de cons, plus ça se voit. Où va-t-on, papa? Je ne sais pas, mais on y va. De qui descendons-nous, maman? Pour être si condescendant, où va-t-on, papa? Je ne sais pas, mais on y va. Comme dit mon tonton, plus on est de cons, plus ça se voit.
Oui, alors on est toujours avec la tordue. La tordue, eh bien, une troisième chanson avec le titre de cette troisième chanson, ça doit être Ma boule, si je ne m'abuse.
Le reste en soi, sous le gilet, la quincaillerie, à tailleur cuir, ça va de soi. Tu claques des doigts, le reste suite, et le caille de la canne-bière est un fameux coup de raquette. Si on veut, tu nous payes une bière. À tes combines, y'a qu'à dire niette. Tu ramènes des caisses de pot de vin quand tu fais la tournée des caves. Du rupin, du politicien, tout le gratin qui se déprave. Tu soignes ta réputation, tes hommes de main et leurs bagouses. T'as une chaîne de télévision, des armes de la cam et du flouze.
Moi, je veux pas finir ma boule. Et je bulle sur la map monde. Je regarde tourner la boule sans jamais rentrer dans la ronde.
Tu vis à l'aise de l'air du temps, tu vends du vent dans des ampoules. Tu pourrais te casser les dents pour les revendre à une poule. T'as dégoté l'Eldorado, une mine de rien qui vaut d'alors. Tu dors la pilule à gogo, t'as trouvé une poule aux œufs d'or. T'amasses des liasses et tu te délasses. Miami Beach, les pieds dans l'eau. Et tu joues aux dames à Damas. Pendant le pipi, je te masse le dos. Tu vends tes services les plus secrets à des derviches qui tournent pas rond. T'as des valises pleines de billets et des devises qui sont pas bon.
Moi, je veux pas finir ma boule. Et je bulle sur la map monde. Je regarde tourner la boule sans jamais rentrer dans la ronde.
T'as du bagou, t'as la tchatch, la bosse des maths et des commerces. Et t'organises des matchs de catch dans des hangars à Marrakech. Comme sport, tu fais de l'import-export et tu fais transpirer les autres. Tu magouilles, fente de porc. Avec des requins de toutes sortes, t'es converti au CAC 40, prêt à tous les salamalecs. Tout est bon pour que le pognon rentre, mais tu sais pas quoi faire avec. Même pour l'amour, tu payes content. Les villes noircies à temps partiel, dans des bars réservés aux blancs.
T'aimes pas les négros spirituels. Moi, je veux pas finir ma boule,
ma boule, ma boule.
Et je bulle sur la map monde, je regarde tourner la boule sans jamais rentrer dans la ronde.